BFM Business, 500 millions d'Européens, avec Euranet Plus. Yann Anthony Noguès.
Bonjour et bienvenue à Bruxelles. Merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de 500 millions d'Européens, toujours ici dans le studio Agora du Parlement européen, dans la capitale. Nous avons avec nous Guillaume Balas, eurodéputé socialiste. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes rapporteur d'un texte très important sur le dumping social, parce qu'on a le sentiment que au début le projet européen c'était l'Europe qui protège et puis l'Europe qui évite la guerre, et plus ça va avec les décennies, les années, puis on s'est retrouvé avec un sentiment d'une Europe qui au contraire expose, qui expose là maintenant aux migrants, mais qui expose également à la concurrence, qu'elle soit loyale ou pas. Là on parle de concurrence déloyale notamment. Le dumping social, qu'est-ce qu'on peut faire contre?
Eh bien, tout d'abord, il faut en prendre la mesure et pas tomber dans les faux débats. En prendre la mesure, c'est que aujourd'hui, ce que j'appelle moi la concurrence sociale déloyale, qui est plus large que la simple notion de dumping social, est à la fois légale et illégale. Légale parce qu'elle profite et tord les textes législatifs existants, et illégale parce qu'il y a une fraude massive aujourd'hui qui existe et qu'on a bien du mal à contrôler. Et le faux débat, ça serait d'opposer là-dessus les partisans d'une Europe sociale, on pourrait dire à gauche, entre guillemets, d'abord dans la défense des travailleurs, et des libéraux qui y seraient hostiles. Parce que moi, je peux faire la preuve, je crois, enfin en tout cas j'essaye, qu'un libéralisme bien compris, c'est pas mon cas, je suis pas libéral, mais même des libéraux,
est-ce que vous êtes bien
aujourd'hui, devraient combattre le dumping social, parce que ça va à l'inverse même des valeurs du libéralisme économique telles qu'elles devraient être pratiquées par l'Union européenne.
Bonjour Jean-Sébastien Lefebvre.
Bonjour.
Correspondant de Contexte ici à Bruxelles. C'est ça qu'il faut faire maintenant pour permettre de rétablir le dialogue entre Bruxelles, l'Europe et les Européens, alors que notre première émission là en 2016, c'était est-ce que l'Europe verra la fin de l'année 2016, passera-t-elle l'année? C'est ça qu'il faut faire, c'est lutter contre le dumping social.
C'est une des pistes qu'il faut explorer, c'est surtout une des pistes que la Commission européenne commence à reconnaître comme étant valable. Ça veut dire que Jean-Claude Juncker a déclaré récemment que oui, la directive travailleurs détachés, qui est souvent évoquée dans les débats à Bruxelles, sera réouverte en 2016. Donc là, on sent quand même qu'à Bruxelles, il commence à se poser des questions sur est-ce qu'on n'est pas allé trop loin sur certains sujets, est-ce qu'il ne faut pas modifier, parce que finalement, la question c'est est-ce que même légalement, finalement, on n'a pas autorisé le dumping social.
Bonjour Jean Quatremer, correspondant de Libération, auteur du blog Coulisses de Bruxelles. J'écoutais dans le propos introductif de Guillaume Balas, il y a quand même une distinction importante entre ce que les règles européennes autorisent, la fameuse directive service, détachement des travailleurs, etc., et surtout les abus qui sont faits dans beaucoup de pays et la fraude. C'est contre ça qu'il faut se battre surtout.
À chaque fois qu'on parle de dumping social, en règle générale, ce sont des affaires de fraude. C'est-à-dire les fameuses, par exemple, les abattoirs en Bretagne. Bon, ben, on y va sur place, c'est pas la directive ou les directives européennes qui permettent l'emploi de travailleurs roumains sous-payés, c'est simplement des patrons qui sont sans scrupules, qui exploitent une main-d'œuvre exposée. Et donc c'est contre ça qu'il faut lutter. Donc c'est au niveau des États aussi qu'il faut lutter contre ce dumping. Cela étant, il faut quand même pas nier une réalité qui est que l'Europe n'a pas su expliquer ce qu'elle faisait en matière de libre concurrence des services, qu'on a le sentiment que effectivement le plombier polonais peut venir concurrencer le plombier français à des conditions qui sont pas réellement les mêmes. Donc c'est pas le level playing field,
terrain d'égalité.
Voilà, terrain d'égalité. On a ce sentiment-là. Et on a le sentiment, en plus, qu'on cherche, par ailleurs, encore une fois, à nous mettre en concurrence, pas seulement avec d'autres pays européens, mais avec le reste du monde. On a parlé dans cette émission récemment du TISA, de ce fameux accord international en matière de libéralisation de services.
Ce n'est pas un accord. À chaque fois que je disais accord international, vous me repreniez dans l'émission.
Oui.
Ce n'est pas un accord qui est en négociation secrète.
Voilà. Une négociation secrète. Et donc, on donne le sentiment aux gens, effectivement, qu'on ne lutte pas contre les abus, que l'Europe s'ouvre non seulement aux autres, qu'elle ouvre le commerce des services, non seulement aux autres pays européens, mais aussi au reste du monde. Donc on crée de l'incertitude.
Voilà comment lutter contre le dumping social. C'est l'objet d'un rapport présenté cette semaine en commission emploi et affaires sociales par l'eurodéputé socialiste Guillaume Balas. Vous n'êtes pas le plus à droite des socialistes.
Non, je suis socialiste conséquent.
Socialiste conséquent et bien compris, pour reprendre aussi votre expression. Voilà le programme de 500 millions d'Européens cette semaine, le tout avec Jean-Sébastien Lefebvre et Jean Quatremer. Pour réagir, hashtag 500 M. Alors, l'idée de votre programme, c'est de combler des lacunes législatives. Vous avez fait différentes propositions cette semaine, Guillaume Balas, parmi lesquelles, en tout cas, la première, c'est de lutter contre les fraudes en renforçant notamment les inspections. Vous voulez mettre des contrôleurs partout.
Oh non, on en est loin.
Avec des képis.
Aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est qu'un certain nombre de pays sont en train d'augmenter les contrôles, alors que d'autres ne le font pas, c'est-à-dire qu'il commence à y avoir une divergence sociale entre les États qui va accroître encore la divergence économique. La France, par exemple, a pris des mesures extrêmement rudes et va les mettre en application d'ailleurs là, dès le début de l'année. Les contrôles sont en train de se multiplier en France, alors que dans d'autres pays, ça n'est pas le cas. Ce que je crois, c'est qu'il ne faut pas... Oui, dans d'autres pays, on reste à un stade d'inspection extrêmement faible. Il y a eu,
Parce que c'est un projet qui avait été porté par Michel Sapin à 6 mois des élections européennes.
Oui, il n'y a pas eu que ça. Il y a eu le rapport aussi de Gilles Savary sur le sujet et la loi Macron 2, qui sont un certain nombre, notamment d'éléments comme le cabotage, etc., routier, enfin bref, des éléments assez précis, a aujourd'hui renforcé les contrôles de l'État français.
Et quel pays ne fait pas ça?
Aujourd'hui, on a un exemple probant avec la Roumanie, voilà, où il y a un gros sujet aujourd'hui dans l'ouest de la France avec des salariés roumains. Un syndicat roumain bosse avec la CFDT sur le sujet. Donc c'est d'ailleurs assez exemplaire de voir des centrales syndicales en capacité de travailler ensemble pour lutter contre le dumping social. Et on voit bien que la Roumanie tarde aujourd'hui à réagir de façon...
Donc c'est plutôt les pays qui fournissent la main d'œuvre.
Mais c'est ça, on est dans ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a à l'est de l'Europe l'idée que vendre sa force de travail à bas prix est un élément de concurrence normale. Et en réalité, on s'aperçoit que ça enferme ces pays dans une économie low-cost depuis la réunification d'ailleurs, depuis la réunification de l'Europe, je veux dire, dont ils ont du mal à sortir. Et qu'il faudrait, au contraire, les aider à créer des économies en capacité de produire de la valeur ajoutée.
Ils ont du mal à sortir. En attendant, ces économies se développent quand même à vitesse grand V.
Assez faiblement, si vous voulez. Justement, je suis en train de regarder ça. Depuis que l'Europe s'est réunifiée, on peut s'apercevoir que ces économies-là, évidemment, vont mieux que sous le joug soviétique. Ça, c'est une certitude. Mais quand on regarde le rattrapage, entre guillemets, en termes de PIB par rapport aux pays de l'ouest de l'Europe, c'est pas flagrant. On n'est pas dans quelque chose qui est massif, où il y a, j'allais dire, comme l'Espagne ou le Portugal, qui est une montée, en termes de qualité économique réelle.
Jean-Sébastien Lefebvre, vous qui connaissez très bien le cas de la Pologne, par exemple, vous êtes d'accord avec Guillaume Balas là-dessus?
La Pologne se pose généralement ce problème. Cette question, surtout, c'est est-ce que notre économie rattrape finalement l'économie allemande ou est-ce qu'on est juste des sous-traitants? C'est ça le problème. C'est aussi les Polonais commencent à se poser la question le jour où les fonds européens s'arrêteront. Est-ce qu'on finira comme l'Espagne avec une bulle spéculative, etc. Et en même temps, les Polonais.
Et ce jour-là se rapproche.
Vu
le comportement politique du gouvernement polonais.
En plus, la question, c'est pour les Polonais, si on autorise une réforme encore de la directive sur les travailleurs détachés, est-ce que ça va pas faire monter le chômage chez nous? C'est ça aussi leur crainte profonde. C'est dire, finalement, effectivement, ceux qui sont partis en France en étant travailleurs détachés, s'ils rentrent chez nous, les Polonais, je crois qu'ils ont déjà 14% de chômage, quelque chose comme ça. Ça va te poser un vrai problème. Donc c'est un peu l'équilibre. Donc par exemple, quand vous discutez avec vos collègues d'Europe de l'Est, qu'est-ce qu'ils vous répondent sur
C'est très compliqué, c'est vrai. Je l'admets, parce que effectivement, ils sont enfermés. Ils se sont enfermés. Ils le disent eux-mêmes dans un cycle infernal, qui est de considérer que vendre de la main d'œuvre peu chère, finalement, c'est leur valeur ajoutée aujourd'hui, et que si jamais on devait arrêter ça, alors ça provoquerait des dégâts sociaux chez eux importants. Ce qu'il faut, et c'est là d'ailleurs où il y a eu un pilotage, à mon avis, des transitions économiques et un pilotage des fonds structurels qui serait bien à revoir. Donc ce qu'il faut, c'est peut-être passer à un pacte. Un pacte qui peut pas être que social, mais qui doit être économique aujourd'hui. D'ailleurs, les résultats électoraux en Pologne aussi traduisent ces malaises-là, à mon sens. Et je pense qu'on pourrait allier une politique qui soit une politique d'investissement, y compris dans ces pays, y compris sur la transition énergétique, par exemple, par rapport à la Pologne, puisqu'on sait qu'il y a des problèmes avec le charbon, et d'un autre côté, de leur demander de faire des efforts importants. Parce qu'en Pologne, notamment, on s'est aperçu que ne serait-ce que le reversement des salaires pour les travailleurs détachés, souvent ne se fait pas. C'est-à-dire que le travailleur détaché part, par exemple, en France ou en Allemagne, revient, normalement, il devrait toucher tant. Et en fait, il ne touche pas tant parce que le reversement par l'entreprise ne se fait pas. Et il y a souvent des accords préalables qui sont faits avec les salariés qui sont totalement illégaux. Donc, Il y a quand même un problème aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'il y ait au moins le respect de la directive détachement de la part des pays de l'Est. Et après, moi je pense qu'il faut aller plus loin. Et le plus loin devrait être, c'est un débat très difficile, hein, je l'admets, devrait être, un point un peu technique mais très important parce que c'est là où se niche le dumping légal, c'est que quand un travailleur détaché arrive dans un pays, il est payé au salaire net du pays, très bien. Mais en revanche, les cotisations sociales sont payées par rapport au pays d'origine. Et évidemment, dans le bâtiment, par exemple, en France, les gens disent, les chefs d'entreprise disent,
on n'a pas choix. Vous faisiez partie de ceux qui s'inquiétaient de l'afflux de plombiers polonais. On regarde les chiffres, hein, le détachement. 170 000 Européens auraient été salariés en France en 2012, 220 000 en 2013. Et selon le gouvernement, les situations non déclarées sont certainement bien plus nombreuses.
Oui. Alors, je déteste ce terme de plombier polonais, je trouve ça d'une xénophobie implicite terrible. Donc, c'est pas du tout ça le sujet.
Pas les plombiers
aujourd'hui. J'aime et les plombiers et les polonais. Et je n'ai aucun problème pour qu'ils viennent travailler en France à partir du moment où il n'y a pas de mauvaise préférence pour eux, c'est-à-dire une préférence simplement liée au fait qu'ils coûtent moins cher. C'est ça aujourd'hui le sujet. Et ça fait des ravages dans les têtes.
C'est juste parce qu'ils sont plus disponibles, ils ont envie de travailler.
Je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de jeunes Français aujourd'hui qui voudraient être plombiers et travailler.
Oui, il y a aussi un problème, je pense, parce qu'on pense beaucoup à cette concurrence. Et donc au fait qu'effectivement, par exemple, un travailleur polonais qui vient en France paiera ses cotisations sociales en Pologne. Mais prenons l'inverse.
Ah, c'est ça le
problème. Moi, je suis travailleur détaché en Belgique. Où est-ce que je peux payer mes cotisations sociales? Je dois les payer en Belgique ou demain, par exemple, imaginons que je sois en Pologne. Mm-hmm. Est-ce que je dois les payer en Pologne ou je peux les continuer à les payer en France? Parce que mes droits sont évidemment pas les mêmes.
Absolument.
On fait comme si, en réalité, c'était toujours, je veux dire, le moins 10 ans qui venait dans le plus 10 ans. Or, parfois, c'est le plus 10 ans qui va chez le moins 10 ans.
Vous avez raison. Et d'ailleurs, la France est le deuxième exportateur de travailleurs détachés quand on regarde en volume. Hein.
Exact.
Simpliste de dire qu'on peut tout résoudre par l'équivalence des cotisations. Et notamment, ça poserait un problème, évidemment, pour le travailleur détaché qui est en Pologne ou en Roumanie et qui est français, qui n'a sans doute pas envie d'être payé au salaire brut roumain ou bulgare.
Et la retraite bulgare et polonaise.
Alors, en réalité, quand on regarde, c'est toujours sur des niveaux planchers que se pose la discussion, et les salariés français ont déjà conventionnellement des salaires bruts ou nets qui sont bien plus élevés que ce qui est le cas. Mais il faut y veiller. C'est exactement la même discussion que sur la question des salaires minimums planchers. Dans certains secteurs, par exemple,
quand vous dites salaire minimum plancher, oui, par rapport au SMIC, la subtilité?
C'est que, en fait, la grande idée qu'on aimerait tous, je crois, aujourd'hui mettre en place en Europe, c'est l'idée qu'il y ait un salaire minimum dans tous les pays relatif au PIB de chaque pays, évidemment. Pas un salaire minimum en soi. Mais dans certains secteurs, on pense par exemple au secteur des travailleurs hautement mobiles, par exemple les travailleurs routiers. Eh bien, on peut penser que là, il pourrait y avoir un salaire plancher. Le problème, évidemment, c'est qu'un certain nombre de pays ont peur que ce salaire plancher soit un salaire qui attrape, en fait, les standards sociaux pour les tirer vers le bas. Voilà. Donc, c'est la même discussion qu'on a. C'est que l'harmonisation sociale, c'est une idée vers laquelle il faut avancer. Il faut aussi penser qu'il y a des dangers, y compris pour les pays à haut niveau de standards sociaux, comme la France.
Le coût total annuel d'un routier polonais est près de deux fois moins élevé que celui d'un salarié français. C'est 20 000 euros pour un routier polonais. C'est 46 000 euros pour le français. Dans ces cas-là, on se dit, il y a une grosse différence, un delta important entre le français de l'Ouest et le polonais de l'Est. Mais d'un autre côté, quand on regarde par exemple les Espagnols, eux c'est 26 000 euros pour les Espagnols. Et puis il y a une grosse différence aussi en temps de conduite passé dans la cabine du conducteur. 1600 heures pour le français et 2000 heures pour le polonais et aussi pour l'espagnol. On poursuit notre discussion avec Guillaume Balas, eurodéputé socialiste français, Jean-Sébastien Lefebvre de Context et Jean Quatremer de Libération sur la lutte contre le dumping social en Europe. À tout de suite.
BFM Business, 500 millions d'Européens depuis le Parlement européen à Bruxelles.
Voilà, merci de nous retrouver pour ce deuxième quart d'heure de 500 millions d'Européens consacrés à la lutte contre le dumping social en Europe. On l'a dit, l'Europe qui protège, on a le sentiment que c'est terminé. C'est comme la météo, hein. Il y a la réalité puis le ressenti. Et dans le ressenti, eh bien, les Européens pensent que l'Europe, au contraire, elle expose, pas que dans le ressenti d'ailleurs, si, à mon avis, parce que je regarde Guillaume Balas, notre invité aujourd'hui, eurodéputé socialiste, qui réfléchissait tout bas, mais moi je pouvais l'entendre. Jean-Sébastien Lefebvre de Contexte et Jean Quatremer de Libération sont également avec nous. Concrètement, qu'est-ce que vous proposez, parce que vous êtes rapporteur sur la lutte contre le dumping social, qu'est-ce que vous proposez dans le cadre de ce rapport au Parlement européen?
Alors, il y a trois éléments fondamentaux. Le premier, c'est s'intéresser aux secteurs qui sont aujourd'hui les plus exposés, et notamment il y en a un où c'est urgent, c'est les transports en général. Le pire, c'est le maritime. Bon, là, on est, j'allais dire, dans le 19e siècle en Europe sur la question de la protection sociale des marins, par exemple. Ensuite, c'est l'aérien, parce que le ciel européen est en train de se low-costiser et les droits sociaux aujourd'hui sont en train de se réduire, donc il faut y veiller. Et puis il y a la route, on vient d'en parler tout à l'heure, où il y a un certain nombre d'harmonisations potentielles tout à fait possibles et souhaitables, puisque les transporteurs et les syndicats sont d'accord. C'est-à-dire qu'on voit que les patrons et les salariés sur ce secteur sont d'accord pour avoir un certain nombre de propositions communes.
Sachant qu'on a parlé de concurrence déloyale, on voit qu'il y a des abus, mais par exemple sur les transports, alors corrigez-moi si j'ai tort, mais un routier polonais a tout à fait le droit, quand il va en France par exemple, de faire 2-3 arrêts différents, le cabotage, et du coup c'est tout à fait légal, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus. Un transporteur polonais, il parcourt aujourd'hui 10 fois plus de kilomètres à l'international qu'un français.
Oui, en fait, le cabotage est explicable, y compris pour des raisons écologiques. C'est-à-dire que se faire déplacer quelqu'un peut être utile d'un point de vue écologique et qu'on ne multiplie pas, j'allais dire, les trajets. En même temps, on voit qu'aujourd'hui, les règles du cabotage doivent être revues. C'est ce que demande d'ailleurs, encore une fois, la profession dans son ensemble, pour la préciser. Alors, c'est compliqué, parce que passer d'une frontière à une autre, comment on fait pour exactement calculer ça? C'est en fait possible parce qu'on appelle les tachygraphes intelligents, qui sont en fait des instruments électroniques de contrôle. Et on ne sait pas bien pourquoi la Commission a décidé que ça serait mis en place dans 20 ans. Alors qu'on sait qu'aujourd'hui, on peut les mettre en place. Ah oui, absolument, il n'y a pas de problème technique. On peut penser que quelques lobbies ont été actifs.
Jean-Sébastien Lefebvre.
Il y a aussi l'Allemagne qui a aussi tenté de son côté de faire quelque chose juste contre le cabotage. Et récemment, elle a fait passer une loi pour dire que si un conducteur polonais, par exemple, roule en Allemagne, il doit, durant son trajet en Allemagne, être payé au SMIC allemand, au moins. Et s'il va en France, et ben la France, si elle fait la France a tenté de faire la même loi avec la loi Macron, mais la Commission européenne regarde ça d'un drôle d'œil en se disant qu'est-ce que vous faites là, c'est une entrave à la liberté de circulation, de livraison des services, etc. Donc il semblerait que la législation européenne ne permette pas vraiment de faire ça et que l'Allemagne va se faire retoquer plus ou moins gentiment ou méchamment par la Commission. Mais on voit aussi que il n'y a pas que la France qui se pose la question. Il y a l'Allemagne aussi qui a un secteur routier développé et qui se dit. Là, j'ai un problème. Mes entreprises sont pas compétitives parce qu'effectivement, entre un Polonais et un Français, il n'y a pas les 35 heures. mais par exemple, est-ce que dans votre rapport, vous proposez des choses pour pas autoriser cette idée, peut-être, voilà. Le trajet en Allemagne doit être payé tant, le trajet en France doit être payé tant, ou c'est beaucoup trop compliqué?
Moi,
ça.
C'est encore une fois, le tachygraphe intelligent, par exemple, pourrait amener à ça. Mais attention, encore une fois, la divergence. Le problème que tout cela peut poser au bout d'un moment, c'est pour ça que tout le monde a raison et tout le monde a tort dans cette affaire, c'est que il y a une inaction aujourd'hui de l'Europe sur la question de l'harmonisation sociale, mais qui la bloque? Grandement les États.
Oui.
Voilà. Et c'est les mêmes qui après chez eux disent ah bah quand tu passes chez moi là tu vas être payé au SMIC de chez moi. Et donc il y a divergence à partir de ce moment-là et la Commission s'inquiète en disant mais vous êtes en train de mettre des freins au marché intérieur.
Tout à l'heure vous avez dit donc, sur les planchers salariaux minimaux on est tous d'accord. On veut tous ça.
J'ai dit non. Je parlais du principe du SMIC relatif au PIB des différents États.
D'accord.
Voilà. Ouais. Sur les salaires planchers, c'est un petit peu différent. Pourquoi? Parce que il y a la peur, je disais tout à l'heure, de concentrer vers une norme moyenne qui ne satisfasse personne, trop haute pour les pays de l'Est, trop basse pour les pays de l'Ouest, en gros, même si aujourd'hui on avance, puisque par exemple, on le voit, l'ensemble de la profession avance vers cela. Il reste un point à traiter qui est important, c'est les pays scandinaves. Il n'y a pas de salaire minimal dans les pays scandinaves, puisqu'il chez les conventionnels. Les syndicats sont tellement puissants qu'ils redoutent l'instauration de planchers parce qu'ils ont peur, encore une fois, que ça baisse.
D'ailleurs, c'est assez récent en Allemagne aussi, le salaire minimum. Vous êtes d'accord avec ça, Jean, l'idée d'un SMIC européen?
Mais tout ça me paraît sensé, évidemment, mais on risque de se retrouver devant le blocage habituel au Conseil des ministres, parce qu'il y a un moment à l'autre, il va falloir que les États se mettent autour de la table, et vous n'avez pas de majorité suffisante aujourd'hui dans l'Europe telle qu'elle est pour voter ce type de réglementation et d'amendement. C'est triste à dire, mais c'est ainsi. Quand on voit, par exemple, que même sur un dossier qui ne devrait pas poser de problème, qui est celui des travailleurs hautement qualifiés, par exemple, donc qui pourraient circuler à travers l'Europe avec leur système social et ne pas être attachés au système social du pays d'arrivée, il n'y a pas d'accord. Dire, même entre les pays riches, il n'y a pas d'accord parce que chacun est tellement près de ses sous qu'il veut récupérer au maximum de l'argent, donc des cotisations sociales payées par ces travailleurs hautement qualifiés. On est dans un système de dingue. Le résultat, c'est quoi? C'est par exemple un architecte qui va travailler en Pologne, ben on le fait échapper à tout système national, ce sont des conventions privées qui permettent de réguler, enfin de le payer, de prévoir les cotisations sociales, etc.
Jean-Sébastien?
Mais effectivement, je vois le problème soulevé par Jean Quatremer, mais en même temps, si vous prenez le cas de l'Allemagne, par exemple, qui a besoin de gens qui viennent travailler pour alimenter son système de santé, système de sécu, etc.
À cause de son
déclin démographique. Si on lui dit en même temps, les gens qui vont venir chez vous, ils vont travailler, mais ils vont continuer à cotiser chez eux, à part faire baisser le chômage, ou maintenir l'activité des entreprises, fournir la main-d'œuvre, etc., l'Allemagne ne doit pas s'y retrouver. Voilà. Après, effectivement, on pourrait dire, le côté un peu bizarre, c'est qu'en même temps, l'Allemagne a des employés qu'elle n'a pas formés, parce que c'est les pays du Sud. Mais là, dans ce cas, on fait encore un saut
Guillaume
fédéral
Ballas,
plus loin.
J'imagine que vous avez envie de réagir là-dessus, mais ensuite, je voudrais qu'on parle de...
J'ai pas dit que c'était mon opinion.
Des boîtes aux lettres.
Il pose des problèmes.
J'aimerais, parce que le problème politique, il est absolument majeur. Moi, je crois qu'on est maintenant... l'Europe peut mourir. Ça a été dit par beaucoup. Et le problème, c'est que si jamais la divergence ou la contradiction entre un marché intérieur qui se constitue et qui s'est constitué et une Europe sociale à zéro, où ce sont encore les États qui décident entièrement de ce qui se fait chez eux, eh bien c'est simple, c'est que je pense que l'Europe explosera. Et donc la question centrale maintenant, elle est celle-là. C'est est-ce qu'on a ou pas des élites nationales dans les différents pays au niveau de responsabilité historique qui est demandé. Parce que certes,
ça, c'est
ce sont les
intérêts. Vous me posez, ou pas?
Non, c'est une question que je me pose.
Parce qu'on a des réponses.
Donc, c'est pour ça que je crois extrêmement important, au moins, qu'au Parlement européen, on arrive à une position sur ces sujets. C'est pas fait, hein. Très sincèrement, j'entre avec modestie dans l'arène de débat là-dessus, parce qu'on voit que les oppositions sur toute idée d'harmonisation sociale sont extrêmement fortes. Mais je crois qu'il faut que ce débat vive, parce qu'en le faisant vivre, justement, eh bien, ça fait quand même, au moins on fait notre job et on fait pression sur le Conseil. J'espère réellement que certains chefs d'État, aujourd'hui, auront la lucidité de penser qu'il faut une proposition sociale pour l'Europe. Juncker, n'arrête pas de le crier sur les toits, c'est qu'il doit bien y avoir une raison.
C'est un chrétien social. Et donc les démocrates chrétiens sont sur votre longueur d'onde. Ça fait très longtemps qu'ils demandent une Europe sociale. Delors, c'était quand même l'un des combattants de l'Europe sociale. Juncker, c'est la même chose. Mais à chaque fois, encore une fois, c'est pour ça qu'il faut bien placer le lieu des responsabilités de ce blocage de l'Europe sociale, ce sont les États membres qui n'en veulent pas. C'est ça la réalité.
Parce qu'ils voient les choses à court terme.
Je veux juste revenir sur une proposition concrète dans le cadre de votre rapport pour la lutte contre le dumping social. Vous voulez lutter contre les sociétés dites aux boîtes aux lettres.
Oui, en fait, c'est très simple. Aujourd'hui, vous avez des sociétés qui ont leur boîte aux lettres dans un pays, leur activité dans une autre, et parfois même leurs salariés dans un troisième. C'est-à-dire qu'on fait venir les salariés dans le pays et dans un pays et on a son siège ailleurs.
C'est un montage qui permet d'avoir une main d'œuvre, de payer des charges sociales et patronales dans un autre pays et puis le SMIC encore.
Exactement.
Et donc, vous maîtrisez bien.
C'est intraçable et ça s'est beaucoup développé. Je crois qu'il y a deux choses à faire là-dessus. D'abord, il y a certaines règles juridiques qui peuvent être changées. On peut renforcer aujourd'hui les obligations sur le siège de l'entreprise liées à l'activité. C'est tout à fait faisable et ça existe dans plein de pays d'ailleurs. Et le deuxième élément qui est, à mon avis, très important, c'est mettre en place un corps d'inspection européen. Alors, je dis tout de suite, il ne s'agit pas de mettre en place une vaste bureaucratie d'inspecteurs européens qui va coûter extrêmement cher parce que je connais l'argument. Oui. Non, c'est pas ça. C'est un peu sur le modèle de l'administration fiscale américaine, c'est-à-dire un corps de gens assez réduit en nombre, mais par contre très performant, et qui va s'attaquer, c'est un petit peu comme la Haute Autorité de la Concurrence en France, qui va s'attaquer à certains grands groupes. Et ça c'est un effet dissuasif très très important parce que après on sait hein, qu'on peut être victime de cela, c'est exposé sur la place publique et ça fait jamais du bien aux affaires.
Voilà, votre rapport sur la lutte contre le dumping social, le vote est prévu en plénière pour mai ou juin de cette année. Merci beaucoup Guillaume Balas, eurodéputé socialiste, d'avoir été avec nous. Jean-Sébastien Jean, vous restez parce que juste après le journal, Maya de la Baume nous rejoint, ainsi que Éric Scholl. Maya pour ses coulisses de l'Europe et Éric Scholl, patron de la rédaction de Courrier International, pour sa revue de presse. À tout de suite.
BFM Business, 500 millions d'Européens, avec Euranet Plus. Yann Anthony Noguès.
Merci de nous retrouver pour cette deuxième demi-heure de 500 millions d'Européens, toujours ici dans la capitale européenne. Jean-Sébastien Lefebvre de Contex et Jean Quatremer sont toujours avec nous et nous a rejoint autour de cette table la magnifique Maya de la Baume. Bonjour. De Politico,
c'est le quota féminin.
Allez-vous nous parler le quota féminin? Oui, parce qu'il n'est pas tout à fait visible avec Jean Quatremer. Dans vos coulisses de l'Europe, de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui?
Vous savez qui dirige Bruxelles?
On croit savoir.
Bruxelles, la ville de Bruxelles, la Commission européenne.
La ville de Bruxelles, personne ne la dirige. Mais Bruxelles, la capitale européenne.
C'est le G5. Une réunion informelle de gens très importants. D'accord. Qui prennent des décisions très importantes.
Vous aviez entendu parler déjà de ce G5, Jean-Sébastien et Jean?
Oui.
Ah bon, bah d'accord.
Oui.
Bon,
bah,
pour ceux que
nous sommes, on est bien informés quand même.
Nous sommes journalistes.
Très bien. Le G2.
On vous expliquera.
Le G2. Voilà. Le fait chaud de l'émission. Jean et 2. Puis on va être rejoint par, comme chaque semaine, notre ami Éric Scholl, patron de la rédaction de Courrier International, pour sa revue de presse européenne. Voilà, les coulisses de l'Europe et la revue de presse européenne. Demandez le programme de 500 millions d'Européens pour réagir évidemment sur Twitter, #500.
BFM Business, avec 500 millions d'Européens, pénétrés dans les coulisses de l'Europe.
Alors, je connaissais le G20, je connaissais le G8, devenu le G7 tout un temps parce que Poutine n'avait plus le droit d'y siéger. G8 dont aucun pays européen ne fera plus partie au train où on va économiquement en 2040. Donc ça, c'est intéressant, c'est pour ça que c'est toujours intéressant d'avoir notre table. D'avoir notre place à la table des dirigeants de ce monde avec un siège européen. Ça, c'est pour la parenthèse. Maya de la Baume, c'est quoi le G5?
Mais c'est une réunion informelle une fois par mois avec les gens qui sont importants ici, c'est-à-dire le vice-président de la Commission européenne Timmermans, le président de la Commission européenne Juncker, et puis les présidents des groupes du Parlement ici. Et ils se réunissent dans un hôtel qui s'appelle le Stanhope. Ouais. Et qui a, je pense, qui doit avoir une jolie
une jolie verrière
pour se réunir tous ensemble et ils discutent des lois, ils essayent de faciliter un peu les choses, de ce qui passe mal, on va essayer d'en parler et de créer une coalition autour des choses qui fâchent un peu et du coup voilà, ils discutent, ils font des blagues, d'après ce que j'ai compris, ils font beaucoup de blagues.
D'accord. Et viril, j'imagine, et macho parce que ils sont cinq hommes autour de la table, donc il y a Jean-Claude Juncker qui est PPE, qui est de droite, le président de la Commission, Frans Timmermans, le néerlandais qui lui est socialiste et donc vice-président de la Commission européenne, il y a Martin Schulz, l'allemand socialiste et qui est président du Parlement européen et donc vous l'avez dit, deux chefs de file de groupes politiques au Parlement européen, il y a Weber, l'allemand qui lui est pour la famille PPE et puis il y a Gianni Pittella, socialiste italien. Donc vous connaissiez l'existence de ce groupe qui est franchement récente, parce que c'est une initiative de Frans Timmermans.
En fait, les premières rumeurs autour du groupe G5 ont existé après les élections européennes, quand il a fallu former une sorte de pseudo-coalition pour que le Parlement européen ait une majorité. Il y avait cette rumeur, et surtout, ils ont mis en place des groupes de travail pour se répartir en fait les postes entre les deux grands partis. Et certains étaient partisans de le maintenir de façon vraiment structurée et d'autres plus informels, etc. Après, il y avait la question, est-ce qu'on fait venir les libéraux dedans, qui sont aussi un groupe important, et les libéraux auraient bien aimé faire partie de la coalition. Donc Guy Verhofstadt, le président, le chef du groupe libéral ici, a longtemps toqué à la porte du groupe G5 pour devenir le G6, mais ça, il n'a pas réussi. Et les socialistes et les conservateurs préfèrent travailler entre eux et dire à Guy Verhofstadt, bon, si de temps en temps on a besoin de toi, on t'appellera pour faire une majorité, mais tu viens pas faire des blagues avec nous.
Ce que je lisais dans l'article de Politico, c'est que Pittella, le socialiste, c'est un peu la cinquième roue du carrosse quand même.
Oui.
Oui. En plus, il parlait pas anglais. Il parle pas anglais.
Ah oui, voilà, il parle pas anglais.
Non. Parce qu'on disait, il y avait une rumeur assez drôle là-dessus, qu'on disait que Timmermans, en fait, faisait le porte-parole de Pitel, là.
D'accord. Sachant que Timmermans est socialiste.
Quand même. Parce que Timmermans parle
et parle bien, très bien français, très bien italien. Il a été notre invité, d'ailleurs, dans cette émission. Donc, exit les libéraux, les verts, donc il y a les socialistes et la droite. Et c'est une sorte de coalition.
On a une grande coalition, donc c'est un peu normal, grande coalition qui soutient une commission politique. C'est-à-dire que ce type d'organisation existe, c'est normal. Je veux dire, dans les États membres, c'est exactement la même chose. Puisque vous avez les chefs des deux principaux partis qui gouvernent ensemble, qui rencontrent les leaders de l'exécutif. Vous croyez qu'Angela Merkel ne rencontre pas le chef du groupe socialiste, les chefs du groupe démocrate chrétien régulièrement pour déjeuner avec eux? C'est normal. Donc on peut dire que il faut pas s'étonner que ce genre de rencontre ait lieu. C'est à Paris, par exemple, à l'Élysée, François Hollande réunit régulièrement le chef du groupe socialiste au Sénat, à l'Assemblée nationale, etc.
Mais je trouve que c'est d'autant plus intéressant qu'il y a des structures informelles ici et qui brisent un peu l'aspect justement très hiérarchique
et
formel de l'Union européenne. Il y a beaucoup de ça, en fait. On le sait pas, mais il y en a plein. Oui. C'est intéressant.
Donc c'est plutôt une bonne chose, alors.
Mais évidemment, c'est-à-dire que c'est...
Moi, je trouve que ça renforce quand même beaucoup l'image de la tambouille bruxello-bruxelloise où on s'entend.
La tambouille franco-française et la tambouille... J'avais dit un peu... Je ne sais pas si vous connaissez un peu la politique américaine.
Oui, mais vous êtes le premier Jean Quatremer à dire que l'Europe a davantage de comptes à rendre que une capitale nationale et a un problème, elle souffre d'un problème de légitimité.
Oui, mais la question n'est pas là. C'est que simplement, c'est des rapports humains aussi. La politique, ce n'est pas uniquement des structures, comme le dit très bien Maya, c'est aussi des contacts. Vous voyez bien, si vous allez regarder la série américaine West Wing, on voit exactement comment ça se passe. Évidemment que c'est des contacts entre les chefs de groupe des majorités parlementaires, l'opposition, on se réunit régulièrement, on fait des blagues, on boit un petit coup, et ça fait passer... C'est de l'huile dans les rouages. Si vous n'avez que des rapports hiérarchiques ou des rapports encadrés, vous n'arriverez jamais à des compromis. C'est dans les couloirs que sont les compromis.
D'accord, donc vous, par exemple, vous dînez régulièrement avec des hommes politiques, vous buvez un petit coup, etc. Ça met de l'huile dans les rouages.
Évidemment que
c'est une bonne chose.
En tant que journaliste, si vous n'aimez pas la matière humaine, vous n'êtes pas journaliste. Alors si vous arrivez à obtenir une réponse, un scoop, en posant une question écrite que vous envoyez par courrier et vous attendez la réponse, vous n'aurez jamais de scoop. Je vous conseille plutôt d'aller au bar du coin, de boire un bon coup et de faire parler le député.
Voilà, Jean Quatremer, qui est certainement le journaliste européen qui a obtenu le plus de scoop et puis qui a également une cirrhose du foie. Merci Maya. pour cette chronique dans le cadre de notre partenariat avec Politico. On est très heureux de ce partenariat avec cette référence désormais à Bruxelles sur les informations européennes aux côtés de Context et du blog Coulisses de Bruxelles. Je dis ça évidemment pour charrier mes camarades de jeu. Tout de suite, la revue de presse européenne.
BFM Business, 500 millions d'Européens, la revue de presse.
Je sens qu'il y a une présence supplémentaire parmi nous. Bonjour Éric Scholl.
Bonjour Yann Anthony.
Ah, Éric Scholl, le directeur de la rédaction de Courrier International. Je sens que Jean Quatremer demande tel un esprit, parce que vous êtes en ligne par téléphone, vous n'êtes pas... Ce serait bien d'ailleurs qu'un jour, Éric, vous veniez autour de cette table, hein, ce serait chouette pour faire votre revue de presse.
Éric à Bruxelles.
Éric à Bruxelles. Alors Éric, on connaissait depuis la première guerre du Golfe, hein, ces journalistes qui couvrent les conflits aux côtés des militaires, mais il y a une autre forme de journaliste embedded qui fait polémique en Allemagne.
Oui, voilà, il y a eu cette affaire, une affaire qui fait couler beaucoup d'encre, et notamment dans le Spiegel, d'une personnalité du monde journalistique allemand, Jürgen Todenhofer. En réalité, c'est plus qu'un journaliste, c'est un ancien avocat, c'est un ancien juge. Il est un peu le BHL allemand, m'a-t-on expliqué. Et ce Jürgen Todenhofer, il s'est rendu en Syrie, embedded, mais embedded chez Daesh, chez l'État islamique. Et il a passé 10 jours avec Daesh. Il en a fait un best-seller qui se vend très bien depuis maintenant le printemps. Simplement, ça commence à faire polémique. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte, d'une part, de beaucoup d'incohérences dans les dates, et puis, d'autre part, surtout, il n'a pas donné beaucoup d'explications sur la façon dont s'est déroulé son reportage. Et le Spiegel, qui a refait l'enquête, hein, l'enquête dans l'enquête, explique, c'est comme si Todenhofer avait été choisi pour faire ce travail. Et ça pose évidemment l'accès, la question de l'accès à l'information. Est-ce qu'on peut aller jusque-là pour obtenir des informations sur l'État islamique ?
C'est extraordinaire, cette transition entre ce qu'on se disait juste avant dans la chronique de Politico et maintenant dans cette revue de presse de Courrier International. On parlait d'Inbedid, finalement de fraterniser un petit peu avec l'ennemi. On parle de beaucoup d'incohérences dans le travail journalistique, notamment dans les dates. Jean Quatremer.
Ah ouais, je vois que vous êtes en forme aujourd'hui.
Qu'est-ce que vous pensez de cette polémique en Allemagne?
Qu'on vérifie le travail d'un confrère, rien de plus normal. Je veux dire, on va pas prendre. Il faut vérifier qu'effectivement, il s'agit pas tout simplement d'un fake. Il faut aller. Est-ce qu'il faut pour autant refuser d'être embarqué, embedded? C'est le problème avec la guerre en Irak. Non, il faut être dedans, mais il faut avoir des journalistes à l'extérieur. Il faut avoir les deux. C'est-à-dire que c'est très bien d'être avec les troupes américaines, ou là, en revanche, avec Daesh, et puis à l'extérieur. Donc, encore une fois, il ne faut pas se contenter d'une source. Alors, avec Daesh, c'est très compliqué, parce qu'avoir une source, avoir des sources à l'intérieur, c'est rarissime. Si effectivement il a réussi ce coup-là, même si on lui a montré qu'une partie de la vérité, c'est intéressant que Daesh ait éprouvé le besoin d'avoir ce type à l'intérieur, qu'il lui montrait certaines choses, etc. C'est passionnant.
Mais en revanche, après, son récit correspondait pas tout à fait à la réalité, d'après ce que nous expliquait Eric.
Mais ça fait penser un peu au village Potemkin en Union soviétique. Ça veut dire que vous allez là-bas, vous découvrez quelque chose, mais on vous montre ce que vous voulez bien voir. Donc c'est ça, c'est...
Ce qu'on veut bien vous montrer.
On veut bien vous montrer, voilà. Et après, vous voyez ce que vous voulez bien voir aussi. Mais du coup, après, il faut prendre du recul. Et à mon avis, un reportage comme ça, il faudrait le faire aussi en ayant la possibilité d'aller de l'autre côté, soi-même, d'aller jusqu'au bout.
Après avoir vu des gens décapiter d'autres gens et les assassiner, à mon avis, quand on mesure la moindre virgule et le moindre terme dans son article derrière, parce qu'on sait qu'ils peuvent vous retrouver assez facilement. En Russie, Eric Poutine a récemment reçu le président du Congrès juif européen et il lui a fait une promesse qui fait quand même couler beaucoup d'encre là-bas.
Oui, c'est le journal russe Kommersant qui s'interroge sur cette promesse, parce que qu'est-ce qu'il a dit à Vyacheslav Moshe Kantor, donc le président du Congrès juif européen? Eh bien, Poutine lui a proposé de faire venir chez lui, en Russie, tous les juifs d'Europe, enfin pas tous les juifs, mais les juifs d'Europe, et en expliquant qu'ils viennent ici à l'époque soviétique, qu'ils émigraient, maintenant qu'ils reviennent. Bon, voilà, simplement, la presse russe se demande un petit peu ce que ça veut dire, et rappelle différentes, à l'époque, en tout cas, de soviétiques, qu'il y a eu un antisémitisme d'État au temps de l'URSS. Alors, pourquoi ce changement de pied? Pourquoi, cette sorte d'ouverture qui est faite aujourd'hui? C'est Gazeta Rue, en tout cas, le journal en ligne russe Gazeta Rue répond, en tout cas, pas de doute, les Juifs ne viendront pas en Russie. Et pourquoi le journal dit ça? Parce qu'il a regardé simplement les statistiques, et on s'aperçoit qu'il y a toujours aujourd'hui des Juifs qui quittent la Russie pour Israël. Ils étaient 3146 à quitter la Russie au premier semestre 2015. C'était une très forte augmentation, à plus 50% par rapport à la même période l'année d'avant.
D'accord, donc c'est pas parce que Vladimir Poutine se montre particulièrement accueillant que les Juifs veulent forcément aller en Russie. Vladimir Poutine qui est pas aussi accueillant, notamment avec les Turcs. Hein. On a vu les incidents qu'il y a eu entre la Turquie et la Russie. Il fait un petit peu son marché, visiblement, Vladimir Poutine. Jean-Sébastien Lefebvre.
À mon avis, la proposition qu'a fait Vladimir Poutine s'inscrit dans son idée que lui est le défenseur d'une certaine civilisation judéo-chrétienne européenne. C'est-à-dire que vous, les Juifs qui avez peur aujourd'hui de vivre en Europe de l'Ouest à cause des attentats, de l'islam radical, etc., venez du côté de la Russie, venez dans la troisième Jérusalem, puisque c'est comme ça que les Russes considèrent Moscou. La première, c'est Jérusalem, la deuxième, c'est Constantinople, et maintenant, c'est Moscou. Et donc, ils se posent en protecteurs, de ceux qui sont censés avoir façonné l'Europe avec...
C'est un peu ce qu'il avait fait avec Gérard Depardieu, au moment où il avait ses démêlés fiscaux. Non, mais c'est vrai, il avait offert un passeport à Gérard Depardieu en disant « On te brime dans ton pays, t'inquiète pas, tu peux venir chez nous. » Maria de la Baume, qu'est-ce que vous en pensez de cette attitude de Vladimir Poutine?
Moi, je trouve que c'est surtout à une époque où c'est un autre sujet d'une certaine façon, mais à une époque où on a du mal même à prendre des migrants, où les pays européens peinent tellement à faire en sorte qu'on les accueille. Hein. trouve que c'est un peu absurde.
C'est vrai que s'il a des capacités d'accueil, on pourrait réorienter, en revanche, les Syriens,
oui,
peut-être.
Ça rejoint ce que disait Jean-Sébastien Lefebvre, c'est-à-dire qu'il ne veut pas accueillir des musulmans. C'est-à-dire qu'à l'ouest, à l'est de l'Europe, on considère que la religion musulmane est irréductible aux valeurs de la civilisation européenne.
Pour les Russes, c'est encore différent. Il y a 11 millions de musulmans en Russie, quand même. C'est un peu particulier. Il y a les peuples Tchétchénie, Daghestan, tout ça. Oui, mais bon, les Tchétchènes, ils ont eu le malheur de la mauvaise idée de se rebeller, on va dire.
Voilà.
Mais je veux dire, l'islam en Russie n'a pas encore la même signification qu'en Pologne ou autre. Oui. C'est encore différent. Mais effectivement, il n'y a aucune envie chez Poutine de prendre des Syriens.
Alors, justement, vous nous parliez des Juifs accueillis à bras grands ouverts, Eric, en Russie. En Espagne, l'Espagne qui va compter prochainement 12 nouveaux citoyens, 12 Juifs séfarades installés en Israël pour lesquels il s'agit d'un retour aux sources. C'est ce que nous raconte El País.
Oui, et c'est qu'une première étape, c'est intéressant, c'est un projet de loi qui date de 2014 en Espagne et qui consiste à permettre aux descendants des Juifs séfarades expulsés en 1492, donc c'est pas juste hier, ceux qui étaient expulsés par les rois catholiques, et bien de leur permettre de retrouver la nationalité espagnole. Et pour ça, eh bien, ça y est, c'est parti. Donc il y a 12 juifs, donc israéliens, qui ont juré fidélité au roi espagnol et à la constitution espagnole à l'ambassade d'Espagne en Israël. Et la prochaine étape, ils vont obtenir leur passeport. C'est pas juste 12 personnes au total, puisque le nombre de personnes potentiellement concernées représente 500 000 personnes dans le monde. Bon, on calcule, on estime qu'il y a à peu près 100 000 personnes qui pourraient demander leur passeport espagnol.
D'accord. Dans la révision constitutionnelle, il n'est pas question en France que les Syriens qui débarquent jurent fidélité à François Hollande. Non, si. Voilà. Jean-Sébastien Lefebvre.
Il y a quelques années, il y a deux ans, j'étais à Sarajevo. Et à Sarajevo, vous avez des Juifs qui sont venus au moment de leur expulsion d'Espagne. Et justement, j'avais rencontré quelqu'un qui disait que lui descendait de... des Juifs séfarades et qu'éventuellement ils pourraient demander.
Il y a beaucoup de Juifs qui ont fui en Grèce, par exemple, et qui ensuite sont revenus en France. Moi, j'avais un de mes amis très proche dont la famille avait fait ça. C'est-à-dire, elle a été expulsée, Grèce, Thessalonique, puis ensuite retour vers la France. En 1492, ils n'étaient pas non plus très, très welcome en France. Hein. L'antisémitisme européen était assez fort.
Ce qui serait bien, c'est qu'ils fassent la même chose en Éthiopie avec les Juifs éthiopiens. Vous vous rappelez de toute cette.
Ah oui, qu'ils ont été cherchés.
Ouais.
Voilà, en tout cas, c'est plutôt une bonne nouvelle de voir que il y a différents flux. Il y a les Juifs qui souhaitent partir pour Israël parce qu'ils ont un climat d'insécurité ici en Europe. En revanche, on voit qu'il y a aussi des Israéliens qui reviennent sur le continent européen. Dans ce cas-là, l'Espagne. Retour en France, Eric, avec ce test clinique qui a tourné au drame à Rennes, c'était là début janvier, avec la mort d'un volontaire et l'hospitalisation de 5 personnes blessées, une affaire qui a fait du bruit en France, mais aussi au Portugal.
Oui, au Portugal, où en ce moment, dans la presse portugaise, le ton monte vis-à-vis de l'industrie pharmaceutique portugaise. Pourquoi ? Parce que on est en train de s'interroger sur ce laboratoire, ce fleuron du secteur de la santé qui était derrière ces tests cliniques, en tout cas qui était l'entreprise qui les commandait, c'est l'entreprise Bial. Et alors, juste quelques jours avant cet accident, eh bien, dans Diário Económico, un journal économique portugais, le patron de cette grande entreprise portugaise expliquait leurs objectifs. Notre objectif est de croître sur le marché international et d'atteindre 80% de nos ventes en dehors du Portugal. C'est dire si à quel point c'est l'image de cette entreprise risque d'être entachée et ses objectifs, évidemment, vont être difficiles à atteindre. Même la presse plus, disons, le tabloïd Sol explique, il est curieux de voir comment Bial, donc Bial c'est cette entreprise, est passée de tendance à monstrueuse. Voilà, c'est montre à quel point un accident peut aussi se transformer évidemment en accident d'image important, voire économique.
Voilà, le ton monte au Portugal, Eric Scholl, et grâce à vous, patron de la rédaction de Courrier International qui avait vos filets un petit peu partout à travers l'Europe et même au-delà, en Russie, on l'a vu aujourd'hui, eh bien vous prenez tous ces tons dans vos filets. Voilà, non mais c'est un jeu de mots complètement bidon, mais je l'aimais bien. Merci beaucoup, Maya de la Baume, qui se moque de moi. Maya de la Baume de Politico pour votre chronique Les coulisses de l'Europe. Merci Éric Scholl de Courrier International. Donc à bientôt autour de cette table. Ici à Bruxelles, on compte sur vous. Merci beaucoup Jean-Sébastien Lefebvre de Context. Merci beaucoup Jean Quatremer de Libération. On se retrouve quant à nous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de 500 millions d'Européens. Toujours même jour, même heure, hein, le samedi, le dimanche. J'y sais, télé, radio, peut-être les deux pour les plus fans d'entre vous. D'ailleurs, on reçoit de plus en plus de messages. Merci beaucoup. Parfois, ils sont élogieux, parfois pas du tout. Souvent, ils tapent sur Quatremer, d'ailleurs. Continuez surtout dans cette voie, sur les messages. Je me délecte à chaque fois le samedi et le dimanche après l'émission quand je les lis et que je les partage avec mes camarades. Voilà, bonne fin de week-end à tous à l'écoute de BFM Business.